Manu. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Michel Simon rencontre Isabelle Huppert. Ce soir, c'est metteur en scène français.
Bonjour Isabelle Huppert, donc c'est notre deuxième étape dans cette À voix nue et aujourd'hui je voudrais que nous parlions ensemble des grands metteurs en scène ou des metteurs en scène peut-être moins grands mais toujours passionnants avec lesquels vous avez travaillé. Je constate aussi que c'est peut-être l'air du temps de le dire mais néanmoins que vous avez tourné 25 films avec des réalisatrices. C'est dire à quel point, d'abord, il y a énormément de réalisatrices en France et que votre choix s'est porté aussi souvent sur des réalisatrices aussi bien françaises qu'étrangères. Et peut-être on pourrait commencer par une question peut-être un peu bateau, mais être dirigé par une femme, est-ce que c'est pour vous une différence d'être dirigé par un homme ?
C'est difficile d'apporter une réponse complètement satisfaisante et originale à cette question. Oui, c'est certainement aussi différent qu'il y a de différence entre un homme et une femme, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Il faudrait, alors à ce moment-là, dire qu'il y aurait une différence entre le cinéma féminin et le cinéma masculin. Cela me ramène à Nathalie Sarraute, qui répugnait beaucoup à définir ce qu'elle faisait comme étant une littérature féminine. Elle refusait complètement d'établir une différence, une distinction entre une littérature masculine et une littérature féminine. J'aurais un peu tendance à penser la même chose vis-à-vis du cinéma. On sait que un metteur en scène peut, qu'il y a du féminin chez un metteur en scène et qu'il y a du masculin chez une metteuse en scène. Je ne ressens pas vraiment de différence. Non, je ressens des différences fondamentales vis-à-vis d'un metteur en scène à l'autre, mais pas selon que c'est une femme ou un homme.
Est-ce que vous avez constaté dans vos expériences, parce que même 35 films c'est beaucoup, sur le plateau, est-ce que ce machisme dont on parle tout le temps dans le cinéma, est-ce que vous le ressentez, vous l'avez ressenti parfois de la part des techniciens, etc., parce que c'est pas un homme mais c'est une femme qui dirige. C'est là où il y aura peut-être une différence.
Là d'où je suis, je la remarque pas, mais peut-être je suis imperméable et sourde et aveugle à ce qui se passe autour de moi, ce qui est tout à fait possible. Quand on est un acteur sur un plateau, on est quand même dans une sorte de monde imaginaire très peu étanche où finalement il y a beaucoup de choses qui ne vous parviennent pas, hormis ce dont on a besoin pour justement interpréter le rôle dans les meilleures conditions. J'ai pas vraiment le sentiment. Après, ce dont on parle là, cette misogynie, elle s'exerce pas particulièrement sur un plateau de cinéma, ou disons pas plus qu'elle s'exercerait dans tout autre cercle. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà, pas plus là qu'ailleurs, finalement.
Et autre question, de la même façon, vous avez aussi beaucoup de fois donné des chances à des premiers films, à des jeunes cinéastes, qu'ils soient hommes ou femmes. Et là aussi, est-ce que la fragilité d'un premier film vous frappe chez un débutant ou...
Elle me frappe d'autant moins qu'il n'y a pas vraiment de fragilité, à moins qu'il soit fragilisé par le fait qu'on lui fait remarquer que c'est un premier film. Mais un metteur en scène qui arrive pour diriger son premier film, il est tout de suite, on lui assigne la place qu'on assigne à tout metteur en scène, c'est-à-dire à une place importante, dominante, et c'est celle-là qu'on attend, et que ce soit un premier film ou un 45e, c'est en tous les cas, pour moi, la place que je lui assigne, et je reçois de sa part la même assurance, la confiance est la même, à moins qu'il soit totalement décevant, mais moi ça m'est jamais arrivé, et c'est vrai que tous ces premiers films que j'ai fait, mon intuition et celle qui entourait la fabrication de ce film, parce que un film c'est toujours un faisceau de désir collectif, on n'est pas seul à désirer de le faire. Il y a des techniciens, il y a un producteur, il y a beaucoup de gens qui se mettent ensemble pour désirer ce premier film. Et c'est vrai que c'était des films avec des gens comme Ursula Meyer, avec qui j'ai fait Home, Joachim Lafosse, avec qui j'ai fait Une propriété, Alexandra Leclerc, avec qui j'ai fait Les Sœurs Fâchées. J'espère que je n'en oublie pas. En tous les cas, ces trois-là voilà, ont montré que derrière, il y avait des vrais metteurs en scène.
Mais justement, vous parliez d'intuition, parce que pour un premier film, faut effectivement, à moins de vouloir visionner, ce qui est peut-être le cas aussi, les courts-métrages qu'ils ont faits, c'est tout de même un pari. C'est pas la même chose que de tourner avec Claude Chabrol.
Non, mais de toute façon, qu'on ait fait, encore une fois, 20 films ou pas du tout, un film, c'est toujours une terre inconnue. Alors c'est une terre doublement inconnue dans le cas d'un premier film, mais c'est de toute façon toujours un peu une terre inconnue. Donc chacun, même moi, si je fais, il y a quelque chose de l'ordre de la première fois quand on fait un film. C'est ça d'ailleurs qui est tellement excitant et qui fait qu'on a toujours envie d'y retourner, parce que c'est merveilleux d'être dans la première fois, d'être dans un sentiment de pas connaître ce qui va arriver, qui, contraire à la routine. Donc voilà, on est tous assigné à cette position-là. Et c'est très agréable. C'est pas du tout quelque chose qui doit faire peur, au contraire. C'est l'excitation de la découverte.
Alors, vous êtes une actrice française, bien entendu, et d'une certaine façon, vous êtes aussi dans la préférence des Français pour le cinéma d'auteur, en tout cas dans le monde du cinéma, ce qui sépare peut-être les Français des Américains, qui attachent parfois plus d'importance au scénario qu'au nom du metteur en scène, alors que vous, j'ai le sentiment que c'est tout de même le metteur en scène avec lequel vous engagez le dialogue.
Oui, d'une manière un peu hâtive. Je suis sûre qu'il y a des cas particuliers qui, évidemment, ne rentreraient pas dans cette distinction-là. Mais c'est vrai que, peut-être en France, on a tendance... alors peut-être il faudrait mettre un petit peu des deux, d'ailleurs. Parfois, on a peut-être tendance à faire trop confiance uniquement au metteur en scène en se préoccupant moins bien du scénario, et qu'aux États-Unis, il y aurait une attention plus grande à quelque chose qui soit immédiatement satisfaisant au stade de l'écriture. Il y a certainement du bon partout. J'ai tendance à penser que le metteur en scène, ça reste quand même la pièce maîtresse. Que de donner cette importance et cette confiance au metteur en scène, c'est aussi rendre au cinéma sa part la plus forte. C'est une expression à chaque fois singulière, individuelle, inattendue, imprévisible, mais c'est en misant sur cet aspect-là du cinéma qu'on a le plus de chances de voir surgir des écritures nouvelles. Et ça passe effectivement pas forcément sur l'écriture convaincante d'un scénario. Voilà, le cinéma, il y a plus d'imprévus, encore une fois, d'indéfinissables, d'interrogations qui définissent le cinéma. Donc, c'est difficile de trancher. Moi, je suis la première à être contente quand un scénario est particulièrement satisfaisant. J'ai plutôt tendance à m'attacher au dialogue, personnellement. Parce que le scénario, c'est un matériau très assez ingrat, de toute façon, dans un premier temps, par rapport à un roman, par exemple. Et puis, ça ne prend pas forcément en compte un autre stade qui est essentiel et qui constitue l'essence même du cinéma, qui est le montage. Alors que des dialogues, au fond, c'est ce qu'il y a de plus proche entre ce qu'on lit et ce qu'on va jouer et ce qu'on va voir et ce qu'on va entendre, en tous les cas. Là, il n'y a pas de transformation, enfin, à moins que les dialogues soient haché en petit bout. Mais enfin, voilà, il y a une qualité, et c'est un petit peu ça, moi, sur lequel je m'attache le plus. Et souvent, j'ai envie de faire un film, parfois, quand j'hésite, ou quand... C'est parfois une phrase qui résonne particulièrement bien à mon oreille, et c'est à cause de cette phrase que j'ai envie de faire le film, qui me paraît tout d'un coup, en une phrase, résumer tout ce que j'attends d'un rôle ou tout ce que j'attends d'un film. C'est très important, les dialogues.
Et qu'est-ce que vous attendez du metteur en scène? Parce que le metteur en scène d'aujourd'hui, à part de rares exceptions, n'est plus du tout le metteur en scène des années 30, 40, même 50, dans le cinéma français, les Autant Lara, les Clouzot, même Bresson dans une toute autre dimension, qui était vraiment extraordinairement contraignant, qui piétinait leurs casquettes, qui brutalisait les comédiens. C'est plus du tout ça, le cinéma aujourd'hui. En tout cas, je crois pas. Mais qu'est-ce que vous attendez alors, justement, du metteur en scène? De ne pas être trop contraignant? De vous laisser un espace?
J'attends rien de si défini. Un metteur en scène peut être très contraignant, mais si la contrainte n'est pas contraignante, et ça peut arriver, hein, que la contrainte ne soit pas entravante, en tous les cas. Une contrainte, c'est pas forcément... ça peut être très libérat, surtout au théâtre, d'ailleurs. Les contraintes sont au contraire très, très salutaires, et la liberté naît de la contrainte, mais c'est vrai aussi au cinéma. Jean-Luc Godard, par exemple, c'est un metteur en scène assez contraignant, qui impose des déplacements très précis, même parfois une manière de parler très précise. Mais une contrainte comme ça, moi, j'en redemande à l'infini. C'est pas du tout une contrainte qui est contre moi ou qui m'empêche de jouer. Il y a la bonne et la mauvaise contrainte, pour pas parler d'autre chose. Donc, je peux pas du tout dire d'une manière aussi péremptoire, non, pas de contraintes, ou, mais il y a parfois des directions d'acteurs, ça m'arrive pratiquement jamais, ou si parfois ça m'arrive, j'essaye à ce moment-là très vite de faire comprendre que c'est pas la bonne méthode, qui sont parfois, qui sont trop directives, enfin, on sent que c'est pas comme ça que ça devrait se passer, voilà.
Alors vous avez cité Godard, évidemment, deux films avec lui à 2 ans de distance, sauf Qui peut la vie, qui a un peu manifesté son retour à un cinéma plus public après une période militante, et puis Passion, vous l'avez évoqué avec Anna Chigoula, en 80 et 82, ces deux films. Je sais qu'il était venu vous voir sur le tournage de Cimino pour vous parler de Sauf Qui peut la vie.
Oui, ça c'était vraiment un moment assez incroyable. Je tournais... La Porte du Paradis, comme on sait ou comme on ne sait pas, le tournage s'était prolongé au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, parce que au départ, je devais rester 2 mois et finalement, je suis restée plus de 6 mois. Et comme tout de suite après, je devais enchaîner avec le tournage de Sauf Qui peut la vie, alors Jean-Luc Godard est venu me voir dans le Montana. C'était loin, c'est loin. Pour aller même de Los Angeles, il faut prendre 2 avions, c'était compliqué. C'était dans une toute petite ville du Montana. Et on s'est vu, on est allé déjeuner ensemble, et je lui ai juste demandé en 2 mots, de me dire quel est être ce personnage, juste comme ça pour avoir une vague indication. Et il m'a regardé, il m'a dit « Ce sera le visage de la souffrance ». C'était suffisant pour me faire rêver, réfléchir, avant que je revienne en France, puis en Suisse pour aller tourner le film.
Alors là, Godard a pointé un peu à une image de vous qui est souvent associée à votre travail. C'est justement les personnages souffrants, les personnages mélancoliques. Alors que vous avez tourné beaucoup de comédies et je pense à 8 femmes, vous étiez absolument extraordinaire en vieille fille, à cariâtre, etc., qui se transformait en une beauté sublime à la fin du film. Vous êtes complètement métamorphosé, mais Sac de nœuds avec Balasco, Les Sœurs Fâchées, Copacabana, Tip Top, etc. Donc, vous aimez la comédie et pourtant, on vous associe tout le temps à cette image un peu de souffrance que Godard vous a ainsi définie.
Ainsi définie. Oui, ça c'est toujours difficile. C'est quelque chose contre lequel on ne peut pas du tout lutter. Pourquoi tout d'un coup les gens retiennent de vous plus un certain aspect plutôt qu'un autre, alors qu'effectivement, il est évident que j'ai tourné peut-être pas autant de comédie que de rôle sombre. C'est quelque chose voilà, qui est un peu mystérieux. Ça se balade un peu en dehors de soi, et ça doit d'ailleurs rester en dehors de soi, c'est-à-dire à ce moment pas devenir ni une interrogation ni une préoccupation. Pourquoi parfois les gens retiennent plus certains rôles que d'autres? Peut-être parce que les films, un certain nombre de films dits dramatiques ou sombres ont été plus vus. C'est peut-être lié aussi à des metteurs en scène avec lesquels j'ai tourné quand même plusieurs fois. Haneke n'est pas particulièrement connu pour faire des comédies. À tort d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose souvent de, comme chez tous les grands metteurs en scène, il y a quelque chose souvent de drôle, enfin d'ironique. Il y a aussi de l'humour dans les films d'Haneke, tout comme dans les films de Claude Chabrol. Il me semble au contraire que c'est pas du tout, même ces films sombres ou dramatiques que j'ai pu tourner, ils sont encore une fois avec une certaine distance, cette fameuse distance peut-être dont on parlait tout à l'heure, qui est pas forcément celle que je mets moi, c'est aussi la position du metteur en scène vis-à-vis des sujets qu'il filme qui induit cette distance dans laquelle moi je me glisse dans mon jeu tout naturellement. Mais c'est d'autant plus curieux donc que ce sont pas du tout des films qui sont dramatiques au premier degré, ni dans une sorte de voilà d'émotion sentimentale. Néanmoins, c'est la couleur qu'on m'assigne parfois. Peu importe.
En même temps que Godard, vous tournez avec Piala, qui sont vraiment presque des antithèses de cinéastes. D'ailleurs, Piala, qui était toujours très cruel avec ses confrères, n'a jamais dit, à ma connaissance, de mots contre Godard. Il était un peu protégé. Mais Loulou, c'est tout de même un de vos très grands rôles. Mais comment vous voyez la différence, justement, dans la façon dont Godard et Piala vous ont, j'ose pas dire dirigé, mais en tout cas vous ont fait jouer?
Piala et Godard s'appréciaient, d'autant plus que moi j'ai assisté à une rencontre entre les deux assez mémorable au festival à 2 reprises. Une fois à New York, où on a partagé un repas, tous les 3. C'était assez, assez extraordinaire de voir Maurice Pialat et Jean-Luc Godard dialoguer. Et à une autre reprise au Festival de Telluride, où on a fait une rencontre tous les trois avec le public. Et il y a autant de différences entre les deux qu'il y a... Enfin, et aussi dans la manière dont je joue dans les films, qu'il y a de différences entre leurs films. Je pense qu'on ne peut pas comparer le cinéma de Pialat avec... enfin, disons, la manière... de filmer et de faire des films de Pialat avec la manière de filmer et de faire des films de Godard. Et c'est ça aussi la beauté du cinéma, c'est des langues totalement différentes les unes des autres. Et il y a quelque chose de... C'est difficile, Pialat, parce qu'on a tendance à le... Si on le compare ou si on l'oppose au cinéma de Godard, on pourrait dire que ça serait le cinéma du... un cinéma plus réaliste ou plus ce qui n'est pas non plus tout à fait, je trouve. Il y a une manière de recréer le réel aussi dans le montage, souvent qui est d'une très grande audace la plupart du temps, d'une grande liberté. C'est pas totalement réaliste, enfin il y a quelque chose, voilà, il y a une forme qui en fait d'abord un très très grand cinéaste, et puis qui fait qu'on peut pas non plus que le qualifier uniquement de cinéaste réaliste, je pense.
Mais il a une façon dans les interviews, souvent, une fois le film terminé, à se dénigrer pour pouvoir dénigrer les autres, mais aussi se dénigrer lui-même. Est-ce que vous sentiez ça sur le plateau? Une insatisfaction ou une recherche de perfection?
Une recherche de perfection, plutôt. Moi, c'est toujours comme ça que je le... C'était douloureux de voir ça. On sentait bien que, parfois, son agressivité contre les autres, c'était tout simplement... C'est quelque chose qu'il nourrissait vis-à-vis de lui-même. Il cherchait à saisir une chose tellement difficile à saisir au cinéma, une sorte de flamme de vie. Il disait toujours, avec son optimisme qui le caractérisait, que malheureusement, les meilleurs films, on ne les verrait jamais, parce que c'était ceux qui étaient avant action et après coupés. Alors évidemment, ça avait de quoi nous encourager. Et c'était une phrase, voilà, tellement claire et tellement juste aussi. Souvent, moi, je remarque... On répète au cinéma, on dit action, et moi, je me dis, c'est un peu moins bien que ce qu'on a fait à la répétition. Pourquoi? Parce qu'à la répétition, on pensait à rien, on n'avait pas d'enjeu, et on dit action, et tout d'un coup, il y a un enjeu mal placé, mal envisagé, qui nous fait parfois être un petit peu moins bien que ce qu'on avait donné avant l'action. Alors, tout le... La quête de Maurice Pialat, c'est aussi d'abolir les rituels le plus possible, et justement d'oublier que tout d'un coup, on faisait ce petit pas de côté, qui était évidemment le mauvais pas, qui nous basculait de côté de la fiction. Et moi, je suis d'accord avec lui, on fait pas des films pour être dans la fiction, on fait des films au contraire pour être, disons, dans une authenticité. Après, encore une fois, la réalité, ça c'est encore autre chose, parce que... Le cinéma propose des formes toutes différentes les unes des autres, mais être au plus proche de l'authenticité, de ce qui, tout d'un coup, on regarde un acteur ou on regarde quelque chose qui se passe sur un écran, et voilà. Et on oublie complètement qu'on est au cinéma, justement. C'est ça qu'on cherche, et c'est ça que Maurice Pialat cherchait.
Alors, ce qui est évidemment la grande rencontre, c'est évidemment Claude Chabrol. Vous avez tourné 7 films avec lui, et c'était un rapport purement professionnel, mais en même temps qui se rapproche de rapports entre Monica Vitti, Antonioni, Anna Karina, Godard, Sternberg, Marlène, c'est-à-dire une entente incroyable entre une comédienne et un metteur en scène, à partir de Violette Nozière jusqu'à L'Ivresse du pouvoir, en passant par La Cérémonie, et puis Madame Bovary. On aurait pu en parler hier dans vos rôles importants. Ce personnage de Madame Bovary et cette insatisfaction qu'il y a en elle, qui est un trait que l'on retrouve dans un certain nombre de vos personnages, qu'on retrouve par exemple dans le film de Christian Vincent, La Séparation, qui est la recherche d'un ailleurs, des personnages féminins qui sont frustrés dans leur vie quotidienne.
Oui, ben il faut bien un sujet un peu contrasté pour en faire un film. C'est souvent, oui, effectivement, des personnages qui sont plus satisfaits qu'insatisfaits, qui sont plus en quête d'une vie meilleure ou de. Alors ça, c'est tout part de Madame Bovary. Finalement, c'est pas un hasard si Madame Bovary a fabriqué beaucoup de petits d'elle-même. Alors Claude Chabrol, il avait une manière assez intéressante d'envisager Madame Bovary. Lui, il avait plaisir à dire que Madame Bovary, c'était pas quelqu'un qui avait un complexe d'infériorité, c'était quelqu'un qui avait un complexe de supériorité. Je trouvais que cette approche de Madame Bovary était assez pertinente et assez drôle. Et en même temps, c'est vrai que ça autorisait à faire de Madame Bovary une figure, au fond, peut-être un peu plus proche de nous aussi, qui la tirait un petit peu de son... De l'époque où elle a été inventée, qui lui donnait au fond plus de... Voilà, qui la rendait pas d'ailleurs forcément plus sympathique pour autant, mais qui lui donnait une forme d'énergie dans sa quête désespérée d'une vie amoureuse plus satisfaisante, d'une vie matérielle plus satisfaisante. Voilà, ça lui donnait une sorte de force qu'elle n'a pas forcément... Elle est peut-être... On l'aperçoit comme étant plus lymphatique au fond peut-être dans le roman.
Mais elle n'avait pas les moyens intellectuels pour nourrir ce complexe de supériorité.
Bien, c'est-à-dire que là où elle prend naissance, à la fin du 19e siècle, enfin dans le courant du 19e siècle, quand Flaubert l'imagine, elle préfigure tous les combats à venir, évidemment, mais elle n'en a pas les moyens. D'où la figure tragique qu'elle est, bien sûr. Il n'y a que la mort qui va, au fond, qui tout d'un coup, qui la grandit aussi, et qui en fait une grande héroïne romantique que Flaubert refuse qu'elle soit d'ailleurs pendant tout le roman, tant par ce qu'elle est que par le style aussi qu'il avait.
Alors on parlait de vos sens comiques, il apparaît par exemple chez Tavernier qui vous avait donné des petits rôles dans Le juge et l'assassin et Les enfants gâtés, mais qui vous donne un rôle important dans Coup de torchon, où là vous avez une sorte de délire verbal, comique, absurde, tout à fait étonnant.
Oui, alors là, s'il s'agit d'un roman, c'est pas, je veux pas minimiser ce que je fais, mais encore une fois, il y a chaque film arrive avec son lot d'indices, sa texture qui fait que ça fabrique nécessairement des personnages différents, des manières de jouer différentes. Je peux pas jouer Coup de torchon comme je jouerais Madame Bovary, par exemple. Enfin, ça me paraît tout naturel, et c'est vrai qu'il y a un langage particulièrement ordurier, c'est tiré d'un roman de Jean Thompson qui s'appelait 1275 âmes, qui est un très grand roman de Jean Thompson, qui est peut-être même encore plus noir que le film de Bertrand Tavernier, dans le sens où Bertrand Tavernier, à la fin du film, quand même laisse une toute petite porte ouverte, alors que Jean Thompson, lui, les ferme toutes à la fin du livre. Mais il y avait aussi... un plaisir à aller dans cette description comme d'une humanité irrécupérable, noire, violente, jusqu'à la vulgarité parfois. Une humanité particulièrement inhumaine.
Mais je crois que c'est même le premier film où la veine burlesque qu'il y a en vous a été donnée libre cours par rapport à toute la filmographie antérieure. Je pense que ce film vous révèle un aspect de votre jeu que vous n'aviez pas vraiment pratiqué.
Oui, alors, le cinéma, c'est un art du morcellement, contrairement au théâtre, où le corps est restitué dans son entier. Mais néanmoins, le corps est en jeu, quand même aussi, au cinéma, bien qu'il soit morcelé, bien qu'il y ait du montage, bien qu'il y ait des plans de coupe, bien qu'il y ait du plan, comme on dit, américain, qui... C'est-à-dire qu'on est filmé à la taille, le corps est quand même en jeu, et il ne faut pas s'en priver. Voilà. Et c'est vrai que parfois, il y a une langue, un rapport avec le décor, avec l'environnement, qui fait que le corps, le costume aussi, c'est très important selon qu'on est avec des talons. Il y a un langage du corps, tout simplement. Et chaque personnage... impose son langage, un langage du corps différent.
Alors pour terminer cette partie de À voix nue, je voudrais qu'on parle de Benoît Jacquot, avec lequel vous avez tourné 6 films, qui représentent une autre génération, la génération d'après Chabrol. Et vous avez tourné, j'ai cité Les ailes de la colombe, mais aussi La fosse suivante, une merveilleuse adaptation de Marivaux, Villa Amalia, Pas de scandale, Eva.
Alors comme avec Claude Chabrol, oui, j'ai tourné donc 6 films avec Benoît, et je dis comme avec Claude Chabrol parce que c'était à chaque fois des films très différents. Vous venez de citer la fausse suivante qui n'a rien à voir avec l'école de la chair, qui lui-même n'a rien à voir avec Villa Amalia, si ce n'est que à chaque fois c'est des figures féminines parfois plus ou moins avenantes ou plus ou moins opaques, disons, comme par exemple c'est le cas de Eva, qui est un personnage particulièrement opaque, assez incompréhensible,
indéchiffrable,
voilà, disons assez indéchiffrable, mais toujours des figures aussi dont qui se présentent d'une certaine manière telles qu'on les voit, et puis voilà, on imagine tout un pan, tout un espèce de trou noir autour de ces figures qui restent un peu qui est l'autre de dehors de l'indicible, quelque chose qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer, mais qu'on pressent, et je trouve que c'est quelque chose qui se répète. Alors, c'est certainement quelque chose qui a à voir avec Benoît Jacquot lui-même dans sa pratique de metteur en scène, que de projeter comme ça des figures, de proposer des figures, mais il y a du hors champ au travail, voilà, il y a quelque chose qui travaille en dehors du film qu'on n'arrive pas complètement à définir, mais qui en même temps voilà, vous fait ressentir toute une palette d'interrogations, voire même d'émotions aussi vis-à-vis de ces personnages. Alors, c'est une émotion qui est pas repérable au premier abord, mais et je trouve que dans Eva, il y a une forme quand même d'épaisseur, de presque d'humanité, moi je dirais, dans ce personnage qui vient directement du livre de Chaise que Benoît Jacquot a particulièrement bien saisi, je trouve, dans le film. J'étais très surprise par la lecture du roman. Alors là, pour une fois, j'ai lu le roman, car je n'ai pas vu le film. Je n'ai probablement pas souhaité le voir. Mais j'ai lu le roman de Chaise, et c'était très surprenant de voir à quel point le personnage féminin dans le roman de Chaise est particulièrement contemporain et correspond très très peu aux archétypes féminins de cette époque, la femme vénéneuse, manipulatrice, séductrice. C'est absolument pas ça, Eva. C'est un personnage au fond, voilà, plus proche d'une représentation qu'on peut se faire maintenant.
Merci beaucoup, Isabelle Huppert. Nous nous retrouverons demain pour cette troisième partie d'Avenue.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Michel Simon avec Isabelle Huppert. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Tahar Bouklifa, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.